Bonsoir à tous, c'est un géant du cinéma qui s'éteint aujourd'hui. David Lynch est décédé à l'âge de 78 ans, annonce de sa famille. Le réalisateur est connu notamment pour sa série Twin Peaks et ses films Elephant Man ou encore Mulholland Drive. Il avait révélé l'été dernier être atteint d'une maladie pulmonaire. L'extrême droite israélienne met la pression sur le gouvernement israélien pour ne pas adopter l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Un vote est prévu demain, mais le ministre Itamar Ben-Gvir, connu pour sa radicalité, promet de quitter l'équipe de Benjamin Netanyahou si la trêve est approuvée. L'arrêt des combats doit entrer en vigueur dimanche et permettra la libération de 33 otages israéliens dans les 6 prochaines semaines. 131 voix, loin des 288 requises. La première motion de censure contre le gouvernement Bayrou est largement rejetée par l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste n'a pas voté aux côtés de ses alliés de gauche, de quoi provoquer la colère des insoumis. Le PS fracture le nouveau Front populaire, écrit Jean-Luc Mélenchon sur X. Un autre chemin se dégage pour un avenir différent, salue en revanche François Bayrou. Le Premier ministre qui a donc fini par convaincre les socialistes de ne pas voter la censure au prix de nombreuses concessions. Dans un courrier adressé aujourd'hui, il a annoncé l'abandon du passage à 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie dans la fonction publique, mais aussi le maintien de la taxe sur les hauts revenus dans le prochain budget. L'automobiliste qui a fauché 3 cyclistes dans les rues de Rouen mardi matin est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Cette femme d'une 40aine d'années explique son geste par un profond mal-être psychologique suite à un différend avec son employeur. Une première expertise psychiatrique conclut à une altération du discernement au moment des faits. Le parquet de La Réunion ouvre une enquête après la diffusion d'un reportage sur l'une des habitantes de l'île victime d'une escroquerie en ligne. Une femme piégée par des malfaiteurs se faisant passer pour l'acteur Brad Pitt pendant 16 mois, lui réclamant régulièrement des virements bancaires. La victime assure avoir perdu plus de 800 000 euros dans cette affaire. Aucun suspect n'est identifié pour l'heure. Une série d'enquêtes locales lancée au Royaume-Uni sur les grooming gangs, ces clans d'immigrés pakistanais accusés d'avoir violé et exploité sexuellement des jeunes anglaises dans les années 90 et 2000. Une affaire remise sur le devant de la scène par Elon Musk, le patron de X, accuse le Premier ministre Keir Starmer d'avoir étouffé l'affaire lorsqu'il était procureur. Et puis on connaît les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France de football, tirage au sort effectué il y a quelques minutes. Un choc de Ligue 1, Strasbourg-Angers, le petit pousset Bourgoin-Jallieu sera opposé à Reims et le Paris Saint-Germain se déplacera au Mans. Rendez-vous les 4 et 5 février prochains. Vous écoutez Europe 1, il est 21h02 et vous retrouvez maintenant Elisabeth Assayag pour La France Bouge.
Merci Maëlle Hassani. Prochain point sur l'actualité à 22h. Tout de suite, La France Bouge, une émission spéciale seconde main sur Europe 1.
Médiamétrie qui mesure l'audience des radios viennent de sortir.
On vous adore.
La famille Europe 1 n'en finit pas de s'agrandir.
Ça fait chaud au cœur.
Bienvenue aux 470 000 nouveaux auditeurs gagnés en un an.
Bienvenue dans la famille Europe 1.
Avec nous, vous êtes en bonne compagnie.
Vous êtes formidables.
Merci à toutes et à tous.
Merci d'être aussi nombreux.
470 000.
470 000 nouveaux auditeurs.
Merci pour votre fidélité et votre confiance.
Un beau cadeau pour Europe 1 qui fête avec vous ses 70 ans. Au total, vous êtes désormais plus de 2 700 000 à écouter tous les jours votre radio préférée, Europe 1.
Merci.
Europe 1, la radio libre.
Libertium Assistance Camping-Car, j'écoute.
Bonsoir. Non, rien, au revoir.
Libertium Assistance Camping-Car, j'écoute.
Merci. Bonne nuit à vous.
Libertium Assistance
Vous serez tenté de vérifier, mais Libertium Assistance vous répond vraiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Libertium, la liberté commence ici. Service d'assistance téléphonique pour camping-car, 24 mois offerts, réservé aux particuliers ayant pris livraison d'un camping-car neuf ou d'occasion dans le réseau Libertium. Voir conditions sur libertium.fr.
L'IREF, la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise, vous présente La France Bouge.
La France bouge.
21h, 22h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans La France bouge sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. Ici, des initiatives positives, des solutions et nous avons une heure pour nous plonger dans l'univers des start-up et des grandes entreprises françaises. Des parcours de vie, des innovations et ce soir, alors que nous sommes en pleine période de solde, vous l'avez sûrement remarqué, si on allait faire un petit tour du côté du marché de la seconde main. pas moins de 105 milliards d'euros. C'est le montant généré par le marché mondial de la seconde main. Et c'est le cas ce soir avec nos trois entreprises, trois start-up autour de la table de la France Bouge. Mais avant de les présenter, d'abord un coach comme chaque soir sur Europe 1. Le coach de la France Bouge est toujours fan d'entreprise, fan d'entrepreneuriat, fan de start-up. Lui, il dirige la salle de jeux d'arcade La Tête dans les Nuages. Il a même dirigé l'Olympique Lyonnais. Bonsoir Philippe Sauze.
Bonsoir Elisabeth.
Ça va ?
Très très bien.
Bienvenue dans la France Bouge. Les produits qui proposent une seconde vie ou plusieurs vies, ça vous parle Philippe ?
Alors ça me parle beaucoup maintenant. Si, bien sûr, j'avais un suivi dessus. Mais c'est vrai qu'en préparant l'émission, j'ai découvert des pépites, comme on les appelle dans l'émission. Donc je suis ravi de partager ce plateau avec eux.
Sur ce plateau, dans ce studio d'Europe 1, dans des startups, certaines petites, d'autres déjà bien implantées. Bonsoir Beverly Sonego.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans la France Bouge, fondatrice et CEO de Monogramme. À l'origine, c'était seulement en ligne. Désormais, il y a une boutique, bientôt une école de formation. Bienvenue, vous allez tout nous expliquer d'ici quelques minutes. Autre startup, c'est une appli pour récupérer gratuitement des matériaux de chantier. Bonsoir Selim Zouaoui.
Bonsoir.
Bienvenue dans la France Bouge, cofondateur de Cycle Zéro. Et puis une start-up qui accompagne les entreprises à passer à la seconde main. En à peine 4 ans, la start-up Foam accompagne des enseignes comme Sandro, Isabelle Marant ou encore Lacoste dans le développement de leur offre de seconde main. Bonsoir Lucas Patricot.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans la France Bouge, cofondateur de Foam. Vous allez nous dire comment vous faites. Allez, la France Bouge sur Europe 1, c'est parti. C'est l'émission des audacieux. À la console, c'est Christophe Pierrot. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1.
Europe 1,
21h, 22h, Elisabeth Assayag.
Je vous vois sourire.
Sympa, hein.
C'est
Madonna, sympa.
Mais on remarque, vous donnez l'énergie, la pêche, ça. On en a besoin. Une France Bouge dédiée à la seconde main ce soir sur Europe 1, un marché qui n'a de cesse que de gagner du terrain, qui répond à plusieurs enjeux, aux enjeux actuels de réduction de notre empreinte carbone, de la reprise du pouvoir d'achat. D'ailleurs, c'est ce qu'a remarqué Louise Morin avec son petit micro Europe 1 dans les rues de Paris cet après-midi. Écoutez.
J'achète essentiellement de la seconde main pour les vêtements et surtout pour les téléphones reconditionnés. C'est principalement parce que c'est ce qui pollue le plus, l'informatique. Et je trouve ça pratique. Souvent aussi, il y a l'aspect économique, c'est-à-dire que quand on veut avoir un beau téléphone, ça coûte souvent cher. Donc il y a l'aspect économique, il y a l'aspect écologique et puis il y a aussi l'aspect pratique, on a des bonnes garanties.
J'achète pas de vêtements en seconde main parce que j'ai pas envie de fouiller. J'ai pas envie de fouiller sur Vinted, j'ai pas envie de fouiller sur Le Bon Coin, même pour les objets. Après, en revanche, j'utilise des objets en seconde main. C'est plutôt des objets qu'on m'a donnés dans ma famille. Donc, la vaisselle, des choses comme ça qui, je trouve, ont un certain charme.
Oui, moi j'achète pas mal de vêtements, soit en friperie, soit sur Vinted. Et aussi, quand j'avais emménagé, j'avais acheté pas mal de meubles sur Le Bon Coin. Déjà, parfois dans le neuf, il y a pas ce qu'on veut. Et puis, je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir des meubles avec un peu de cachet. Je trouve que c'est plus joli et puis c'est aussi un peu écologique.
Autour de table, hein, je commence par vous, Beverly Sonego, avant de découvrir votre entreprise. Ça vous inspire quoi, toutes ces paroles de français recueillies par Louise Morin ?
Quand même que la seconde main est vraiment devenue, complètement démocratisé.
Ça,
hein.
C'est complètement démocratisé, oui. C'est rentré dans les mœurs. On parle pas mal de téléphones reconditionnés, ça vous inspire, Philippe ?
Beaucoup. Moi, pour avoir collaboré avec une entreprise comme LDLC.com, effectivement, on avait déjà activé ce secteur-là, donc tout ce qui est informatique et tout ce qui est téléphonie.
Ça représente 16% les catégories qui performent le plus en seconde main. En premier, ce sont les vêtements. Représente
la mode.
47% la mode. C'est la catégorie de produits qui performe le plus en seconde main. Donc, on va commencer avec vous, Beverly Sonego. Vous êtes une entrepreneur qui a démarré un peu par hasard en rendant d'abord service aux copines de votre mari. Et vous vous êtes lancé il y a 10 ans avec Monogramme.
La France Bouge. Elle fait tourner la boîte.
Vous faites tourner Monogramme, Beverly. L'entreprise est née il y a 10 ans. Au début, ça s'appelait pas Monogramme, d'ailleurs.
Il y a même, et vous voulez que je vous dise, 16 ans. Tout à fait exact, ouais. Puisque c'était une autre entreprise. Ça s'appelait Bylux.
Bylux,
ça a démarré tout petit, effectivement, dans un univers plutôt familial et amical. Après avoir fait plutôt de la musique, puisque j'étais dans les finalistes il y a 16-17 ans de La Nouvelle Star.
C'est très chic, ça.
Voilà. Mmh. Et que cette carrière d'artiste, en fait, m'a permis d'animer un petit peu cette offre que j'ai dénichée dans les placards.
Mais c'est ça, vous alliez dans dans le placard des copines de votre maman, prendre des sacs.
Oui,
et les vendre. Mais à l'époque, Vinted n'existait pas.
Pas du tout. C'était complètement précurseur. Alors quand j'ai démarré, je l'ai fait quelques années sur eBay. Et puis très progressivement, Le Bon Coin est apparu. On a entendu lors du micro-trottoir parler de deux plateformes en particulier, Vinted et Le Bon Coin, qui sont quand même très puissantes aujourd'hui. Pas sur le marché du luxe, mais sur le marché un peu, voilà, quand même mode. Et puis on a pu en parler high-tech notamment. Donc voilà, j'ai vidé les placards de mon entourage, et ce qui m'a permis d'avoir un démarrage avec un sourcing de qualité. Et puis progressivement, j'ai animé ça donc sur Le Bon Coin, et puis après sur Facebook, parce que les réseaux sociaux m'ont permis de développer une communauté et d'avoir voilà, que ça prenne de l'ampleur, parce que les amis des amis ont liké les photos, parce que j'ai animé cette offre de façon un petit peu différenciante, immersive, incarnée. Et je pense que c'était aussi ma capacité à être artiste et à l'exprimer devant une caméra. Donc je pense que ça a fidélisé une audience, ça a plu, et cette communauté est très vite passé de 0 à 100 000 abonnés sur Facebook.
Mais qu'est-ce qui fait que vous, au début, on fait ça pour rendre service aux copines de votre maman, qu'est-ce qui fait que ça bascule vers l'entrepreneuriat ?
L'élément déclencheur, c'est ma banque qui m'appelle un jour et qui me dit, vous êtes auto-entrepreneur, mais je crois que vous avez dépassé les plafonds.
Ah,
ça a été vraiment une anecdote qui est véridique. La BNP m'appelle et me dit, je crois que vous rendez pas compte. Et là, je comprends que je passe d'une auto-entreprise et qu'il faut que je monte une structure, cette structure donc administrative. Et finalement,
dans ce sens-là, c'est sympa. Normalement, ils vous appellent pour dire qu'ils ont découvert.
Non, c'était assez rigolo. Et donc, je me suis structurée. Évidemment, quand on est entrepreneur, et puis j'avais pas fait d'école de commerce, j'étais assez autodidacte. Ça a pris parce que, comme je vous le dis, cette capacité à animer, à fédérer une communauté. Et donc très vite, je me suis rendu compte que le sourcing était de plus en plus important, que ces gens qui achetaient, ça s'est internationalisé très vite grâce aux réseaux sociaux, et que ces gens qui achetaient revendaient aussi. Donc il y a eu quelque chose de très vertueux. Aujourd'hui, il y a quelques KPI qui montrent que c'est encore plus vertueux, puisque presque 28% de nos déposants deviennent acheteurs, et plus de 30% des acheteurs qui achètent la première année deviennent déposants dans les quelques mois.
Donc vous vous professionnalisez assez rapidement. Le nom d'origine, vous l'avez dit, Beverly, c'est Bailu. Et puis, né Monogramme. Vous avez voulu changer de nom, il y a eu une raison particulière.
Effectivement, la société grandit, se professionnalise, s'internationalise,
on l'a compris, ça veut dire que vous vendez un peu partout.
Exactement, et après le Covid, il y a un désir d'ancrer un petit peu ce nom, et surtout de faire devenir cette plateforme une marque. Et donc pour qu'elle devienne une marque, il fallait un nom qui résonne dans l'inconscient collectif, on a cherché, et Monogramme fait évidemment
écho. C'est très malin, Monogramme.
Hein, parce que c'est vraiment excellent,
ça parle aux Français et aux anglophones.
Et
puis voilà, le Monogramme dans le
dans
l'inconscient collectif, ce monogramme, ça fait écho à ces sacs de luxe et à toutes les marques, bien sûr Vuitton en particulier, mais toutes les marques qui ont un logo et qui est décliné de façon monogrammée.
Alors vous allez nous pitcher Beverly, Sonego, Monogramme pendant une minute, et puis après on a tous plein de questions à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts?
Plaisir, je suis prête.
Eh ben c'est à vous, on vous écoute.
Eh bien écoutez, Monogramme est une plateforme figitale. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nous avons une boutique à Paris, et avec vraiment un désir d'expérience client plus que de transaction, puisque nous sommes dédiés à sourcer des produits un peu partout en France et dans le monde, et puis à les revendre sur notre plateforme. La différence avec d'autres plateformes de seconde main de luxe, c'est évident, aujourd'hui, c'est notre communauté, c'est notre agilité, cette façon d'incarner le produit, à le présenter, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, on est vraiment précurseurs sur le domaine du live shopping. Notre force aussi, c'est la curation de notre offre, puisqu'elle est extrêmement, vraiment implantée sur la mode luxe, haut de gamme, avec un positionnement vraiment volontaire. On est une équipe très dynamique et digitale. Voilà, une société qui grandit, qui a effectivement aujourd'hui plus de 10 ans, qui fait presque 15 millions d'euros cette année, et qui voilà, se développe avec des piliers très forts sur l'expertise. Évidemment, il y a un anglais RSE, mais l'expertise, le sourcing de qualité, je vous l'ai dit, l'animation sur les réseaux sociaux et avec cet angle live shopping. Donc voilà qui nous sommes.
Merci pour votre pitch, Beverly. Beau pitch, hein, Philippe?
Ah bah, superbe, et puis vraiment, c'est carrément... je trouve que c'est vraiment un symbole de l'émission d'avoir des aventures comme ça, parce que c'est une si belle aventure.
Et puis 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ça commence. En plus, elle annonçait comme quoi elle était à l'équilibre, donc ça c'est très bien aussi.
Ça y est.
Écoutez, voilà, oui. Enfin, on est à l'aube de l'équilibre. On a quasiment break-even cette année. Ça a été un combat extraordinaire. C'est ce que je disais à Philippe.
En antenne, quand elle dit c'est ce que je disais à Philippe, nous on n'est pas là.
Oui, vous aviez qu'à être là.
Mais nous, c'est quand il y a vraiment un pivot. Je pense que c'est celui de beaucoup d'entrepreneurs. Et devant moi, je pense que vous soutenez ce parti pris. On a levé des fonds il y a quelques années et on a été chercher la croissance. Et je pense qu'aujourd'hui, pour valoriser une entreprise, il faut être à l'équilibre, il faut être rentable. Ça a été un vrai combat et on y arrive cette année. Et franchement, avec beaucoup beaucoup de fierté.
Donc, site internet, une boutique showroom pour qu'on puisse un petit peu admirer les sacs. Ce sont surtout des sacs.
Alors, 70% de notre offre représente la maroquinerie, mais on a aussi effectivement du prêt-à-porter, très sélectionné, de la joaillerie et de l'horlogerie, et aussi du soulier.
Ah oui, donc ça se diversifie un petit peu. Une seule boutique pour qui fait figure de showroom ou vous allez vous compter en ouvrir d'autres un peu partout en France puisque...
C'est une très bonne question. On a ouvert il y a quelques années plusieurs points de vente. Donc on a ouvert ce concept store il y a 2 ans et on avait ouvert plusieurs points de vente, notamment à la Vallée Village, une destination shopping à côté de Paris, et puis aux Galeries Lafayette. On a décidé l'année dernière de les fermer pour un problème d'expérience. D'abord parce qu'on est mono référence, qu'on n'a pas de profondeur de stock et que ça c'est un vrai sujet. Donc en termes d'expérience client, d'expédition, il faut vraiment pouvoir gérer cette logistique-là. Donc, pour des raisons évidentes et notamment d'expérience, on a fermé ces 2 points de vente et on a quand même eu, malgré la fermeture des points de vente, une croissance à 2 chiffres cette année.
C'est fort.
Donc, on en est pas peu fiers.
C'est intéressant ce que vous nous dites, Beverly Sonego, pour l'expérience. Parce que si vous êtes parmi nous aussi ce soir, c'est parce que vous allez encore plus loin. C'est que vous êtes en train de vous lancer vers une école de formation. Parce qu'on en a besoin de cette expertise. Après tout, on peut tous vendre des sacs ou en acheter. Se dire bon ben c'est bon, il est vrai, il est authentique, mais finalement on n'en sait pas grand chose. Vous allez plus loin dans la professionnalisation. Vous avez décidé de créer l'école de formation Monogramme. De quoi s'agit-il?
La Monogramme Academy vient d'un constat qui est assez évident, c'est que depuis le Covid, tout le monde s'est mis à acheter et vendre. Ces particuliers qui se sont mis à vider leur placard eux-mêmes parce que pour un besoin d'être en adéquation avec aujourd'hui des valeurs différentes, cette Gen Z qui consomme mieux, plus responsable. Donc tout ça, ça fait sens. Le problème, c'est que la seconde main de luxe, et je dis bien luxe et j'appuie sur ce mot-là, c'est un métier. On peut pas acheter et vendre sans avoir un système de professionnalisation, notamment parce que en même temps que s'est développé cette seconde main de luxe, s'est développé un vrai marché de la contrefaçon. Donc il faut se prémunir des acteurs professionnels, évidemment ont pris des parts de marché, mais ces particuliers peuvent être un danger pour eux-mêmes et pour ce marché qui se développe. Donc mon idée, et je vous l'ai dit tout à l'heure avec quelques chiffres, c'est que ces clients qui achètent et qui vendent par eux-mêmes, parfois seuls sur des plateformes comme Vinted et Le Bon Coin, mais aussi sur des plateformes comme Monogramme ou Vestiaire Collective, oui, puissent se lancer dans l'entrepreneuriat eux-mêmes. Et j'avais envie de leur donner ce pouvoir-là, cette capacité, sans pouvoir du tout me poser cette question de est-ce qu'ils sont les concurrents de Monogramme. Bien au contraire. Monogramme a réussi à fédérer cette communauté. On veut se positionner plutôt comme aujourd'hui, on fait partie des leaders du marché de la seconde main de luxe, mais on veut se positionner plutôt comme un acteur un peu grand frère. Ou demain, Monogramme sera sûrement une plateforme, une marketplace de live shopping dédiée à la seconde main de luxe, ou un peu comme un Tinder, vous viendrez regarder tous ces acteurs, petits, moyens et gros.
Donc une place de marché, une marketplace.
Marketplace.
Avec les entrepreneurs que vous aurez formés grâce à la Monogramme Academy.
L'idée, c'est de pouvoir les caster, c'est de pouvoir s'assurer qu'ils ont assez de compétences pour vendre un produit authentique.
C'est malin, hein.
Donc c'est Philippe la nouvelle star du...
C'est un peu ça.
Ouais, c'est ça,
on va dire ça comme ça.
Beverly.
Les gens ont envie, les gens peut-être parfois font des centaines de transactions sur des produits qui finalement ne valorisent pas, puisqu'un jean Zara, ça n'a pas beaucoup de valeur, et la marge que vous allez prendre, finalement, elle est très petite. Donc autant investir votre temps et votre énergie à bien sourcer un produit Vuitton qui sera authentique et qui aura de la valeur avec une marge plus grande. Et finalement, vous allez investir sur ce produit de qualité et vous allez pouvoir capitaliser là-dessus.
C'est l'immobilier, en fait, l'agent immobilier de la seconde main.
La question sur la Monogramme Academy, donc, quel en sera le programme? Parce que ça va être un cycle de 3 ans avec un diplôme à l'issue, ou bien c'est vraiment internaliser cette formation?
Alors, la module, c'est
effectivement,
ça?
Effectivement, la Monogramme Academy, c'est 4 modules. 2 modules de formation, un de 16 heures et un de 32 heures. Un module, donc une formation physique et une formation digitale qu'on peut faire à distance. Mm-hmm. Vous êtes certifié Monogramme Academy, donc vous faites partie de cette communauté et on vous donne un certificat comme quoi vous avez fait cette formation. Elle est certifiante pour nous, pour le client, mais elle n'est pas encore certifiée ni par une grande grande école et on y travaille, on a des partenariats en cours et non plus par l'État aujourd'hui.
C'est intéressant ce que vous dites, Beverly, parce que en effet, aujourd'hui, c'est un marché qui se développe de plus en plus, la seconde main, et il n'y a pas de module dans les écoles de commerce, il n'y a pas de cours de de la seconde main.
Alors ça, c'est fou. Ça a été ma question et ça a été mon interrogation parce que j'embauche. Aujourd'hui, Monogramme est une société qui embauche beaucoup d'étudiants, notamment sur des alternances et sur des stages. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient un désir profond d'intégrer le marché de la seconde main, mais que à part quelques cours sur le RSE et l'histoire des maisons, il n'y a pas de cursus qui développe ces compétences-là.
Mais c'est quoi la compétence ?
Alors la compétence pour moi, en tout cas selon mes critères à moi pour travailler sur le luxe de seconde main, c'est évidemment un sourcing de qualité, savoir sourcer, savoir expertiser. Alors c'est un métier,
c'est difficile,
c'est un métier extrêmement difficile, c'est des centaines et des milliers d'heures de travail.
Bien sûr.
Mais en tout cas, on développe des capacités à pouvoir écarter le vrai du faux. Ils vont le travailler avec les années et on sera aussi solidaire pour pouvoir les accompagner dans cette démarche tout au long de leur professionnalisation et même à partir du moment où ils deviendront académiciens et qu'ils seront entrepreneurs de demain, parce que le but, c'est de les guider et qu'ils soient des ambassadeurs de Monogramme, des sourceurs et des vendeurs, mais on pourra y revenir. Une fois qu'ils savent sourcer, expertiser, ils devront pricer, parce que le prix, c'est le nerf de la guerre. Si vous avez un bon produit, mais qu'il n'est pas pricé, vous êtes décorrélé du prix du marché, et on peut s'en rendre compte grâce aujourd'hui à la data, il y a des outils de pricing, des outils de scrapping que nous, on a développés en interne, vous voyez un marché très concurrentiel.
Vous êtes bien sûr. Comment vous regardent les maisons de luxe?
Alors, on a quelques petites discussions avec certaines maisons qui sont quand même...
Parce qu'ils sont vachement regardants, ils font attention, ils ont créé des unités dans certaines grandes maisons de luxe.
C'est un autre sujet,
Il y a des départements entiers dédiés à cette seconde main, dans des très belles maisons de luxe.
Alors, il y a deux sujets pour moi.
Est-ce que vous parlez avec eux?
Un petit peu. Ils ont effectivement, comme vous le dites, des sortes de police internes pour savoir notamment et éradiquer la contrefaçon. En tout cas, je dis contrefaçon avec des pincettes parce que...
Mais aussi des développements de sur le marché de la seconde main, pas que la contrefaçon.
Ah oui. Mais c'est ce que je vous dis. Pour moi, il y a deux sujets. Les maisons de luxe regardent et veulent éradiquer tout ce qui est sujet de contrefaçon. Depuis qu'on a des discussions avec l'Unifab, moi je dis plus contrefaçon, je dis article contrefaisant, parce que la contrefaçon, c'est un sujet.
Je parle pas de la contrefaçon, je parle de la seconde main.
Alors oui, la seconde main. Mais parce que vous me dites quelles sont nos relations avec les marques. Aujourd'hui, les marques veulent et s'attardent à ce que des produits, par exemple, qui sortent du canal de vente classique ne se retrouvent pas sur le marché de la seconde main, comme les ventes au personnel ou des produits qui ne sont pas identifiés, commercialisés. C'est ce qu'on appelle des produits contrefaisants. Mais les maisons de luxe aujourd'hui, c'est difficile pour eux de se lancer sur ce marché, notamment pour le problème de la contrefaçon, mais aussi du pricing. C'est un marché, le CRM, ne pas cannibaliser leur offre. Donc, c'est vrai, c'est des vrais sujets. Ils vont s'y mettre, ils n'auront pas le choix. Ils prennent du temps, ils s'y mettent. Mais c'est pour ça
que ça pourrait être intéressant d'utiliser vos services pour ça, non, Philippe?
Bien sûr, moi aussi, j'en suis convaincu, évidemment, parce que plus on aura des professionnels, mieux ce sera structuré.
Des experts, mais évidemment.
Donc, dès qu'on aura des experts, ça sera beaucoup plus simple. Là où il faut vraiment insister par rapport à Beverly, je pense que c'est vraiment la maroquinerie, quoi, parce que tout à l'heure, on va parler de vêtements.
Oui. Foam, donc, c'est la start-up qu'on va découvrir tout à l'heure, qui accompagne, internalise pour les entreprises,
ce qui est intéressant moi, ce que j'aime beaucoup dans tout ça, c'est plusieurs choses. C'est d'abord le point de départ de l'aventure de Beverly. Ensuite, la professionnalisation qu'elle a apportée. Ensuite, la vision qu'elle a également en termes de stratégie et notamment d'embarquer avec elle des personnes intéressées par cet univers-là à travers cette Monogramme.
Elle est en train d'être sur tous les aspects du marché.
C'est assez magique. Mmh. C'est assez magique et bravo à vous parce que vraiment pour avoir réalisé ça et d'y avoir pensé déjà et puis pour commencer à le réaliser. Donc ça c'est vraiment super.
Ouais, bravo. Merci venant de vous, je suis très
fière. Non, mais c'est vrai. Bravo Beverly, vous restez autour de la table de la France Bouge. Beverly Sonego, Philippe Sauze, la seconde main. Et ben oui, ce sont aussi des chantiers. Vous savez que 68% des déchets en France viennent du BTP. Alors la start-up qu'on va découvrir met en relation des chantiers qui ont des déchets dont ils doivent se débarrasser envers des particuliers qui vont peut-être trouver des solutions pour faire leurs travaux. Mais oui, c'est passionnant. On va les découvrir. On va découvrir Cycle Zéro juste après une petite chanson sur Europe 1. David Damiano, Born with a Broken Heart. Man with a Broken Heart sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. 21h, 22h.
Elisabeth Assayag.
C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, bienvenue dans la France Bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Le point commun de toutes les entreprises présentes ce soir, c'est la seconde main, marché qui ne cesse de grossir. Il est estimé à 7 milliards d'euros d'après la Fédération du e-commerce. Et nous sommes, pour en parler, nous sommes avec Beverly Sonego, la fondatrice et la CEO de Monogram. C'est une plateforme mais aussi un magasin, un showroom et bientôt une académie, une école de formation concernant les produits de luxe de seconde main. Elle nous a tout expliqué, c'était passionnant Philippe.
C'était vraiment extra et vraiment je suis emballé.
Bah très bien, bah, voilà. C'est le but.
Donc, je peux pas faire plus.
Donc vous validez à 100%.
Ah, je valide. Bah, de toute façon, j'ai plus besoin de valider vu le rythme qu'elle donne à son expansion depuis quelques années. Donc là, on est vraiment sur des rails là déjà.
Et quand vous vous êtes lancé, Beverly, vous voyez déjà tout ça ou au fur et à mesure vous avancez?
Ouais. Non, c'est-à-dire, je pense que j'ai été pris dans une tempête assez incroyable. Et puis en plus, je suis très opérationnelle. Et je l'ai été d'autant plus qu'à un moment donné, quand on a levé des fonds, on essaye de structurer la boîte, la processer, on embauche des gens qui viennent évidemment avoir des capacités un peu différentes et complémentaires avec ce que vous faites. Et puis après ça, et c'est ce que je disais un peu aussi en antenne à Philippe, c'est qu'il y a eu un moment où pour valoriser une société, et puis il faut aussi être à l'équilibre et surtout être rentable. Donc on a eu un petit switch à un moment donné pour courir tout ça. Ça nous a remis les mains dedans. Moi, j'anime beaucoup de lives au quotidien. Je suis
très présente sur les réseaux sociaux.
Oui, très présente, mais je pense que ça a été la clé et je pense que sur ce secteur-là, on pourra en parler aussi avec Faume. Je pense que l'incarnation sur ces produits-là, où il y a une notion d'état, une notion de confiance, l'incarnation joue un vrai rôle.
Philippe Sauze.
C'est ce que je dis souvent au micro lors des émissions. Elle a su se structurer également. C'est-à-dire qu'elle a pris une directrice générale,
oui,
je crois,
oui.
C'est ça?
Effectivement, je pense que n'importe quel entrepreneur et sûrement ceux en face de moi pourront vous le dire. Une jolie aventure quand elle croit, c'est aussi une équipe. Mmh.
Choisi qui comme DG?
Ben écoutez, j'ai choisi il y a 4 ans Cécile Maudy Ben Shabbat, qui a eu une expérience de 17 ans chez VentePrivé.com, qui était elle-même alternante quand elle a démarré aux côtés de Jacques-Antoine Grandjean et Michael Benabou, et elle a fini actionnaire et au board.
Enfin, elle vous a rejoint sans problème?
Elle nous a rejoint d'abord parce qu'elle était cliente de Mono. Et qu'elle voulait nous mettre en relation avec
c'est une belle histoire.
Avec Reflon, une plateforme de mise en relation que tu dois de connaître pour faire des flux sur bref. Et du coup, elle nous a proposé ça et j'étais en pleine structuration, je cherchais plutôt une directrice commerciale et son profil m'a plu. Elle aimait la seconde main passionnément, elle aimait le produit, elle connaissait le pricing par cœur et elle s'était occupée de structurer toute la partie digitale
de vente privée.
Donc voilà, elle a rejoint l'aventure, elle a depuis 4 ans effectivement, elle a joué un rôle clé sur l'expansion.
Mais c'est important
et quand on cherche un directeur général à ce niveau-là, il faut plutôt un couteau suisse Donc il soit capable d'avoir plusieurs
cordes à son arc.
Alors moi j'avais une question,
Céline Zouaoui.
Bah écoutez, j'avais une question en fait surtout sur la qualité des sacs ou en fait des différents vêtements de seconde main. Est-ce que ils n'étaient pas de meilleure qualité par exemple que ce qui se fait dans le neuf actuellement?
Ah, c'est une super question, bien entendu. La fabrication des sacs, alors on appelle vintage, l'appellation vintage, c'est un sac qui a plus de 20 ans.
Ouais.
Et on remarque évidemment que la fabrication des sacs, notamment, je vais vous donner l'exemple d'un sac Chanel classique en cuir d'agneau, la qualité était nettement supérieure puisque des sacs qui ont plus de 20 ans et je vous dis même parfois 35 ans, 40 ans arrivent chez Monogram dans des états qui sont absolument incroyables. Alors que finalement, quand nous sourçons des produits plutôt récents, je dirais entre 2 et 5 ans, on voit des états qui sont prématurément abîmés.
Pourquoi?
Mais parce qu'en fait la qualité de fabrication, les matériaux utilisés ne sont plus du tout
à cause de la RSE, à cause de l'utilisation d'autres matériaux.
Je pense qu'ils ont dégradé peut-être un petit peu leur choix sur les cuirs, sur leurs
fats. D'autres fournisseurs,
il y a une qualité de cuir aujourd'hui qui est nettement inférieure. Leur cuir caviar et leur cuir d'agneau ne sont plus du tout les mêmes que des cuirs qui sont emblématiques des années 80.
On va chercher des sacs de nos mamans ou nos grand-mères.
Le Birkin d'Hermès de nos grand-mères.
Il est peut-être en meilleure qualité que celui d'aujourd'hui.
Et on a la même chose sur les matériaux de chantier.
Justement, vous avez raison de le dire, Céline Zouaoui, vous êtes le cofondateur de Cycle Zéro.
Europe 1, la France bouge.
La pépite.
Avant de vous connaître sur les matériaux de chantier, c'est la même chose? C'est-à-dire que ce qu'il y avait il y a 30 ans, c'est plus la même chose aujourd'hui?
On remarque quand même qu'il y a potentiellement une baisse de la qualité. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de manière globale, c'est de voir que la seconde main ne veut pas dire baisse de qualité, mais peut-être aussi matériaux de meilleure qualité.
Et vous avez tout à fait raison. Céline, vous avez 37 ans, la start-up a 2 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Hein, vous avez toujours baigné dans l'univers du BTP. D'ailleurs, je crois que vous passiez vos vacances d'été assistant chantier oui. avec votre papa. Oui. Votre grand-père, lui, c'était déjà un professionnel de la récupération.
Un chineur.
Votre grand-mère, dessinatrice et décoratrice.
Exactement.
Et vous passiez vos étés, c'était des jobs d'été, c'était quoi?
Tous les étés sur les chantiers en tant que main d'œuvre, donc à faire du placo, des bandes, de l'enduit.
Et voilà. À la fin de chaque chantier, là, il y avait une petite souris qui arrivait et qui dénichait un petit tabouret par-ci, une petite planche par-là, c'était ça l'histoire?
Exactement, c'est un peu l'histoire. En fait, on récupérait un peu tout, on récupérait les luminaires, le mobilier, et en fait, on les transformait, on les améliorait, et en fait, on faisait notre maison où on aménageait les espaces, nos espaces avec tous ces différents matériaux.
Donc ça, c'était, vous étiez déjà dedans, vous baignez dedans. Vous avez fait des études d'architecture.
Oui.
Et là-bas, d'ailleurs, vous allez rencontrer celle qui va devenir votre associée.
Exactement, Karima Lipsir, donc qui est architecte HMO, mais qui est spécialisée en direction de chantiers de grande envergure, donc qui a travaillé sur des chantiers comme les Galeries Lafayette, Champs-Élysées, la Tour Alto à la Défense, ou plus récemment le nouveau siège de la BPI, donc avec une expertise chantier et en plus une expertise économie circulaire. Donc c'est vrai que Karima connaît très bien le chantier, mais aussi le monde de l'économie circulaire.
Vous lancez Cycle Zéro en 2022. Avant de pitcher, moi je voudrais essayer de comprendre ce qui a fait que vous avez, vous aussi, c'est toujours comment vous basculez vers l'entrepreneuriat. Vous avez toujours voulu entreprendre ou vous avez dit, je sais que l'une des principales raisons c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'était vraiment la principale préoccupation. Mais qu'est-ce qui fait que vous basculez vers cela?
Ce qui nous fait basculer, c'est déjà en fait le constat qu'on avait sur les chantiers, parce que c'est des matériaux. Quand on parle de matériaux, c'est pour ça que je parlais de qualité de matériaux. On va parler de matériaux peut-être qui valent très cher, du marbre, des choses qui ont une forte valeur ajoutée et qui finissent à la benne. Alors qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas bloquer leur fin de mois.
Mais parce qu'on sait pas quoi en faire.
Ben c'est pour ça que là on agit et qu'il fallait agir.
Très bien.
Voilà.
Donc vous avez agi en créant Cycle Zéro. Vous allez pitcher. Nous aussi, on a plein de questions à vous poser autour de la table de la France. On vous écoute, Céline, c'est à vous.
Alors, comme je disais, on est parti du constat que 69% des déchets en France provenaient du secteur du BTP. Donc c'est énorme. Et donc avec Karima, Jules et moi-même, on a décidé de créer Cycle Zéro. Alors Cycle Zéro, c'est quoi? C'est la première application qui permet de récupérer gratuitement des matériaux de chantier. Le principe, il est simple. On poste des annonces de matériaux sur nos chantiers partenaires. Ces annonces sont envoyées aux particuliers situés à proximité de ces chantiers, parce que notre action est avant tout locale. Ensuite, les particuliers peuvent réserver et venir récupérer directement ces matériaux sur le chantier. Donc, tout en flux tendu. Et c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour la planète, parce qu'en moyenne, c'est moins 30% d'empreinte carbone pour les chantiers. C'est plus 12% de pouvoir d'achat annuel pour les particuliers, et c'est moins 50% de frais pour les entreprises sur leurs frais de déchetterie. Donc en chiffre, Cycle Zéro, c'est 300 000 téléchargements, soit la première communauté de réemploi en France, c'est 65 chantiers, 13 000 matériaux employés et 650 tonnes de déchets évités. Voilà.
C'est génial, on valide aussi. Merci Céline Zouaoui, cofondateur de Cycle Zéro. Le modèle économique, il repose sur quoi alors?
Il repose en fait sur les économies pour l'entreprise. En fait, l'idée, c'est simple, c'est que ça a un coût de mettre en benne. Et l'idée, c'est que ça soit deux fois moins cher que la déchetterie.
Ah oui, voilà. D'accord, très bien. Philippe Sauze, le coach de ce soir sur Europe 1.
Alors moi, comme j'aime bien qualifier les startups que nous recevons.
Donc d'un c'est solide ou rafraîchissant en général?
Aujourd'hui, c'est surprenante.
Ah, surprenante, très bien.
Surprenante d'abord parce que par son domaine d'activité, le BTP, on va pas dans la tech. On est surpris de trouver une application tech dans le BTP.
Ouais, c'est vrai.
Et quand j'ai découvert Cycle Zéro, ça m'a passionné. Parce qu'en fait, c'est un espèce de jeu, quoi. Hein. Dès qu'on a téléchargé l'application sur son mobile, c'est très simple, c'est très intuitif. Je vais revenir tout à l'heure sur l'application. Je trouve qu'elle est hyper intuitive.
Elle est facile, ouais.
Très facile d'accès. Et je trouve ce que vous faites avec Karima, votre associé, qui est vraiment très, c'est vraiment très pertinent, quoi. Voilà.
Donc, approche innovante. il est complètement dans la dans cette économie circulaire puisque vous transformez des déchets en ressources utiles pour nous tous.
Alors ça reste des matériaux. Et ces matériaux, en effet, l'idée c'est de leur donner une seconde vie et éviter la mise en déchetterie qui a un impact négatif même pour le traitement en fait de ces parce que ça a un coût carbone de traiter les matériaux en déchetterie. Au-delà du coût financier. Et bah, je remercierai le designer X8 de l'application, Jules, par rapport à l'intuitivité de l'appli. Et l'idée, c'est ça. C'était vraiment de donner la possibilité aux particuliers que ce soit super simple. Et ce qu'on nous conseille d'ailleurs, c'est de mettre les notifications. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça part très vite. 300 000 personnes, c'est beaucoup. Et du coup, on conseille à tout le monde de mettre les notifications en place pour être alerté dès qu'il y a un nouveau matériau qui est posté.
Alors moi, je trouve que c'est très sexy dans le bâtiment. Voilà,
d'accord.
La formule est très sexy dans le bâtiment.
C'est vrai. Évidemment,
dans l'univers de Beverly et de Foam, on va se retrouver évidemment aussi dans le côté sexy du produit, etc.
Mais dans le bâtiment, la seconde main, quand même.
Quand j'ai regardé les lavabos, les bidets ou les baignoires, j'ai trouvé ça très marrant de se retrouver ça avec son application et j'ai trouvé ça très intéressant. Et il y a surtout un argument pour le particulier. C'est gratuit.
C'est du don. Et c'est aussi remettre...
Alors vous gagnez votre vie comment?
Sur les économies de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise nous paye pour traiter les matériaux au même titre qu'une déchetterie, sauf que c'est deux fois moins cher.
En fait, sur chaque chantier et chaque démolition, si j'ai bien compris, et je suis pas un spécialiste du bâtiment, mais d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des bennes dans lesquelles on positionne tous les déchets, voilà, et Cycle Zéro arrive, sélectionne les articles et ressort tous ces articles et met ces articles de côté, prévient sa communauté. C'est ça?
C'est ça. Alors en fait, comment ça se passe?
On a Philippe qui a tout testé.
Non mais c'est exactement ça. En fait, on va curer le bâtiment. Donc quand on démolit le bâtiment, on enlève les matériaux. Ces matériaux, nous on les a sélectionnés en amont. On demande à l'entreprise de les stocker de manière temporaire sur le chantier. En général, nous ça dure pas longtemps. Donc enfin, on a des retraits hebdomadaires. Donc c'est pas des gros volumes de stockage. On les prend en photo, on les met sur l'appli. Ensuite, ils sont envoyés aux particuliers situés à proximité, ils réservent, et nous, on les accueille, donc, la semaine d'après, pour récupérer l'ensemble des matériaux.
Beverly? Ah, moi, ça m'inspire énormément, même si, effectivement, c'est pas du tout mon métier, parce que le bâtiment, ça n'a rien à voir avec la mode. Mais je trouve que ça fait beaucoup de sens, et j'aime beaucoup, l'idée de la qualité, du traitement, de la qualité du produit. Je trouve qu'à partir du moment où on met à la déchetterie un produit qualifié, tu parlais de marbre tout à l'heure, je trouve ça, surtout quand on parle des sujets d'upcycling, de réutilisation, notamment tous ces gens qui sont artistes, un peu créa, et qui peuvent transformer le produit, je trouve que vraiment, il mérite ces produits-là d'avoir une seconde vie, donc tu donnes des opportunités à des particuliers de faire des choses très bien.
Et vous avez raison de préciser, Beverly, parce qu'il y a une anecdote, je voudrais que vous la racontiez, où là on voit que Cycle Zéro est exceptionnellement utile. C'est cette histoire d'erreur de commande sur des radiateurs pour des logements sociaux. Alors, racontez-nous.
C'est pas qu'une erreur de commande, mais en fait ça arrive. C'est ce qu'on appelle les surplus potentiels.
Oui, c'est comme quand on est dans les avions là, où on est sur booking. Ouais. Voilà, c'est la surcommande.
C'est un peu ça. c'était une grosse rénovation et du coup il y avait beaucoup de radiateurs à changer. Hein, c'était plus de 2000 ou 3000 radiateurs, donc c'est assez énorme. Ouais, c'était une grosse opération.
Grosse quantité.
Et il y a eu en fait il y avait des radiateurs qui avaient déjà été changé donc un an avant et du coup l'entreprise n'a pas eu besoin en fait de les remplacer et donc il restait 300 radiateurs en fin de chantier et on a eu une semaine en fait pour les faire partir mais c'est 300 radiateurs neufs et donc là ça a permis à plus de 60 familles en fait parce que c'est plus de 60 familles qu'on récupérait en une journée donc nous c'était une journée en fait d'enlèvement de récupérer donc tous ces radiateurs.
Génial.
J'ai une question.
Oui.
Et est-ce qu'il pourrait pas y avoir la place aux réseaux sociaux pour partager justement quelque chose comme ça, pour donner cette info à une communauté qu'il y a 300 radiateurs dispo ce jour-là, qui est intéressé?
Alors, merci, c'est intéressant. J'invite tous les particuliers à s'inscrire sur nos réseaux pour être avertis.
Cycle Zéro.
Pour être averti du coup de
on va tous se connecter
du postage,
ce soir.
Le serveur est assez puissant pour accueillir toutes les connexions soir.
Alors normalement il est assez puissant.
Allez, vous nous direz s'il est assez puissant. Vous avez des besoins aussi, vous avez besoin de vous faire connaître davantage, hein, c'est ça.
Bien sûr.
Hein, ça c'est important, avoir toujours plus de téléchargements, plus d'inscrits. Je crois que vous avez une petite question, Lucas, avant qu'on écoute un peu de musique là.
J'avais une remarque, je trouve ça hyper malin le business model de faire une contrainte de je dois jeter, ça me coûte cher. Ouais. Ah bah finalement ça devient quelque chose qui est revalorisé, qu'on remet dans le circuit pour amener de la valeur. Donc bravo pour cette initiative.
Merci.
Allez, vous restez autour de la table de La France Bouge. On va écouter les précieux conseils de Philippe Sauze pour Cycle Zéro. On va découvrir Foam, hein, cette entreprise qui accompagne les enseignes hein, à devoir réaliser, internaliser leur seconde main. Puis on va écouter aussi un peu de musique. On va écouter Niagara, quand la ville dort sur Europe. L'heure des pros, Pascal Pro et vous, c'est du lundi au vendredi de 9h à 9h30 et de 11h à 13h pour vous donner la parole. Si vous souhaitez participer à l'émission, vous pouvez appeler le 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé et Europe 1 vous rappellera.
Retour de La France Bouge avec l'IREF, la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise.
Europe 1, La France Bouge, 21h, 22h.
Elisabeth Assayag.
Un peu de Dépêche Mode, New Dress, c'était très précurseur, hein, Dépêche Mode qui chante. Alors si on écoute bien la traduction, parce que vous savez Philippe Sauze que moi je suis très attaché à cette vague-là, il dit tu ne peux pas changer le monde mais tu peux changer les faits. Et c'est un peu le cas ce soir avec cette France Bouge tournée vers le marché de la seconde main. Nous sommes toujours avec Beverly Sonego, fondatrice et CEO de Monogramme. Monogramme, c'est une plateforme, c'est une très belle communauté, plus de 470 000, non
un peu moins, 250.
Bon, je l'ai doublé en 2 minutes.
C'est pas grave.
C'est après l'émission ça.
C'est après l'émission.
C'est toujours après l'émission.
Un showroom, mais aussi une école, hein, la première formation dédiée au métier de la seconde main avec plusieurs modules. Le lancement a eu lieu là en janvier, oui. Hein, avec 6 janvier, qui était donc l'ouverture officielle des préinscriptions.
Oui, et hier, j'ai pu animer mes premiers cours.
C'est chouette, ça, vous êtes prof aussi.
Ah, c'est incroyable. Moi, j'ai un vrai désir de transmettre. C'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Peut-être aussi parce que j'étais pas cet élève modèle. Peut-être parce que j'étais artiste et que donc du coup l'école classique ne me convenait pas parfaitement. Donc du coup j'ai appris aussi à me dépatouiller dans ce monde-là où quand on n'est pas exactement tout à fait standard, il faut sortir du lot, s'arracher, etc., etc. Donc moi transmettre, j'ai envie de voir ces profils de demain, que ça soit des jeunes femmes qui sortent de l'école et qui ont envie de se lancer sur le milieu de la seconde main et aussi, et je pense que ça fait sens parce que je suis maman de 4 enfants et que j'ai autour de moi d'autres mamans qui ont envie de s'épanouir dans leur job et qui ont surtout envie parfois de changer de métier. On voit qu'il y a des femmes qui sont pas épanouies dans leur métier et elles sont un peu ancrées en disant qu'est-ce que je fais. Depuis le Covid, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de changer.
On a beaucoup de reconversions professionnelles
depuis
le Covid.
Pourquoi pas leur donner ce pouvoir de changer de métier
et vous y parvenez. Beverly Sonego, nous sommes toujours avec Selim Zouaoui, cofondateur de Cycle Zéro. Alors Cycle Zéro, c'est la seconde main aussi, hein, puisque c'est une entreprise qui permet de récupérer des déchets dans les chantiers.
C'est ça.
Pour la maison, pour décorer,
pour les particuliers, ou pour les entreprises aussi.
Exactement. Voilà. Donc vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous, Selim. Philippe Sauze, comment pouvons-nous aider ce soir sur Europe 1
quelque chose qui est une force de l'émission aujourd'hui à travers aussi Beverly et sa société, c'est la communication. Donc je pense qu'effectivement il faut monter en communication, il faut vraiment sensibiliser.
C'est comme ça aussi qu'on se démarque.
C'est vraiment comme ça, exactement. Et du fait que votre implication, en plus, elle est vraiment grand public, hein.
Oui.
Donc c'est pas, il faut vraiment ouvrir quoi la communication. Je trouve que vous et votre associé, vous portez très bien ça aussi, parce qu'il faut l'incarner.
Oui.
Donc vous l'incarnez aussi. Karima l'incarne. J'ai eu la chance de voir certaines vidéos et tout. Elle incarne vraiment l'entreprise. Donc ça, c'est génial. Il faut vraiment pousser comme ça. On a un exemple avec nous ici sur le plateau. Donc on peut en profiter avec Beverly, bien sûr. Je pense qu'il est important également de développer des partenariats clés. Mais je crois que j'ai rien inventé là-dessus. Je pense qu'il va falloir vraiment focuser et vraiment se spécialiser dans des contrats avec les secteurs publics, les industries également.
C'est ce qu'on fait.
Exactement.
Sur les partenariats.
C'est pas mal. Hein, j'ai bien travaillé. Alors
très
voilà.
Bien bossé. Comme à chaque fois, Philippe. C'est important de le rappeler.
Je pense qu'il y a la réglementation et la conformité également, parce que je pense que si vous arrivez à ce que je me suis dit, à assurer de respecter toutes les réglementations locales, et Dieu sait s'il y en a en France, bien sûr, je pense que ça peut être intéressant également pour le traitement de la gestion des déchets. Quelque chose de très important. C'est la première fois que j'entends parler de cet univers-là.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est un avantage. Il y a peut-être des concurrents, je ne sais pas. J'ai cherché, mais j'ai pas bien trouvé. Donc,
pas sous cette formule. Pas sous cette formule, et surtout pas sur le don. On est les seuls en fait à permettre de récupérer gratuitement.
Donc, ce qui est très important, c'est que appuyez-vous sur cette différence. Beverly s'est appuyé sur cette différence. On va voir tout de suite avec Lucas et ses associés avec Foam. Appuyez-vous sur ces différences. Construisez autour de cette différence. Et après, arrivez là où certains arrivent, c'est-à-dire vraiment à créer votre chemin, votre secteur, et vraiment, je pense que ça peut aller
très loin. Que ça devienne un réflexe de se connecter sur Cycle Zéro pour voir s'il n'y a pas des objets qu'on peut chiner pour la maison.
Et d'ailleurs,
une news, non, je crois.
C'est une news, mais en fait, par rapport à, merci pour les conseils, c'est, du coup, en fait, dans cette optique, en fait, que nous, on va continuer à avancer avec Cycle Zéro. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a touché beaucoup de particuliers, on a touché beaucoup de personnes, parce que la question du pouvoir d'achat est essentielle aujourd'hui en France.
Bien sûr. Partout.
Et du coup, cette problématique, nous, notre but, c'est d'être partout en France. Aujourd'hui, on est en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Ouais. Et notre but, c'est d'être partout. Et du coup, par rapport à ça, nous, notre objectif, c'est d'augmenter cette offre. Augmenter l'offre de matériaux. Parce que oui, on a des personnes pour les récupérer. Donc ça, on a réussi à lever un des freins du réemploi.
Donc plus de fournisseurs.
Donc plus d'entreprises, plus de partenariats.
Comme dit Beverly.
C'est ça, plus de partenariats. Et surtout, du coup, l'idée, c'est cette année, je donne rendez-vous à tout le monde, donc surtout les entreprises. Fin mars, début avril, on prépare une petite révolution dans le monde du réemploi. Et du coup, je donne rendez-vous.
Très bon teasing.
Rendez-vous pris, vous reviendrez nous en parler. Autre start-up ce soir en cette France Bouche consacrée à la seconde main. Elle s'appelle Faume, Faume.
Europe 1. Europe 1.
Le talent de la France bouge.
Un talent encore ce soir sur Europe 1, comme chaque soir avec vous. Lucas Patricot, vous avez 36 ans. L'entreprise est née en plein Covid, juillet 2020.
Exactement.
Pas le faire.
À un moment où il y a une quête de sens de tout le monde.
Mais que tout le monde, on a
où tous les magasins de mode étaient fermés. On pouvait commander que sur Internet, où tout le monde a trié ses placards. Mm. Bah, nous, on s'est dit, c'est quand même dingue. On peut pas vendre auprès d'une marque de mode. On est obligé d'aller sur Vinted, sur le Bon Coin.
Donc vous avez créé l'entreprise qui permet aux enseignes d'internaliser leur seconde main. Bah, vous allez pitcher, puis on se retrouve juste après. C'est à vous.
Je vais commencer justement avec un chiffre. Il y a aujourd'hui un vêtement sur quatre qui est acheté sur Internet, c'est de la seconde main. Donc c'est un marché qui est énorme et qui est dominé globalement par Vinted, le Bon Coin, Vestiaire Collective. L'enjeu, c'est que les maisons de mode et maisons de luxe qui produisent ces vêtements, elles en bénéficient pas du tout. Et donc c'est là que FOM intervient. On permet à ces marques, en leur fournissant une solution technologique et logistique, d'internaliser et de créer leur propre offre de seconde main. Donc là, concrètement, si vous allez sur le site de Sandro, Bache, Lacoste, vous verrez maintenant, il y a une petite rubrique qui apparaît, seconde main. Et quand on clique dessus, on reste dans l'univers de la marque et on va permettre aux clients, à vous, de vendre hyper simplement vos vêtements en échange d'un bon d'achat. L'article va être contrôlé, authentifié et reconditionné dans notre réseau de logisticiens. On va le valoriser, ce vêtement, le remettre en vente sur le site de la marque pour trouver justement un nouvel acheteur qui, lui, va avoir l'impression d'acheter du neuf avec un impact écologique en moins, ce qui permet de boucler la boucle et d'avoir un cercle vertueux et de faire rentrer ces maisons de mode dans la seconde main.
Génial. Merci pour votre pitch, oui. Lucas Patricot, cofondateur de FOM. Philippe.
Oui, alors, mon qualificatif pour cette
startup. Allez, celle-ci, c'est quoi?
On y va.
Allez, c'est parti.
Intelligente.
Intelligente. Pourquoi, Philippe?
Alors, entreprise technologique au service de la mode. Et je trouve que ça, c'est bien, bâti autour d'un groupe d'individus. Donc là, on n'est pas en solo, mais on est quatre.
On est quatre cofondateurs.
Quatre fondateurs.
Une spécificité.
Très complémentaires, donc une team très forte.
Ouais.
Très intéressante, parce que là, il y a vraiment des idées qui fusent dans tous les sens et voilà. Et c'est vrai que ce que vous avez monté par rapport à votre univers précédent, puisque vous étiez déjà dans la création d'entreprise auparavant avec Yuko, hein, qui était dans le domaine du bien-être, c'est ça?
Exactement, le bien-être au travail.
Mais c'est pas votre première entreprise.
Voilà, c'est ça.
Non,
et je trouve que FOM, vraiment, il va devenir vraiment un acteur incontournable. Et surtout, c'est une clé en main et une marque blanche, quoi. Donc ça, c'est vraiment très bien, ça.
Exactement. Donc vous adressez, vos clients, c'est les marques, c'est les anciennes.
C'est ça, c'est les marques, c'est les anciennes. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est un peu un constat quand même qui est dingue. Je prends souvent le parallèle de l'industrie de l'automobile. Si vous voulez vendre votre voiture, ouais, vous allez soit sur la centrale, soit vous allez chez BM, chez Renault, et vous vendez votre voiture et vous en prenez une nouvelle. Bah, dans la mode, c'était uniquement l'option marketplace qui existait, les maisons de mode et les fabricants n'en bénéficiaient pas. Donc, nous, on va leur permettre de reprendre la main sur
l'image. Mais ils ont besoin de vous parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne savent pas faire. J'essaie de trouver l'intérêt pour la marque plutôt que de prendre d'embaucher le responsable seconde main de la boîte.
Ouais, parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, une marque de mode, c'est quoi? C'est du design, de la création, une expérience client qu'on va créer. Pour leur site e-commerce, ils sous-traitent la technologie à Salesforce, à Shopify. Pour la logistique, ils sous-traitent des logisticiens. Et donc, nous, on leur permet d'internaliser leur seconde main en utilisant des outils technologiques qu'on leur fournit.
30 salariés, 4 cofondateurs. Mm-hmm. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est que vous avez tout de même des besoins. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans la France Bouge. Notamment, besoin numéro 1, c'est celui de s'internationaliser.
Exactement.
Ça, c'est le vrai enjeu pour vous.
Hein. Notre objectif est assez clair et partagé avec tous nos salariés. Aujourd'hui, on accompagne une quarantaine de maisons de mode. L'objectif, c'est de passer à 150 dans 5 ans. Donc pour ça passera par du commercial, mais aussi de l'expansion internationale. On fait déjà quand même 35% de nos ventes hors de France. Et il y a un point qui est intéressant dans cet univers-là de la mode, c'est que la France, c'est quand même un de nos gros atouts de la mode de façon générale. Et quand on parle de ce qu'on appelle la fashion tech, nous, en tant que petits Français, on est très crédibles à l'international. Et ça nous permet d'aller signer de belles marques aussi au-delà de la France.
Philippe Sauce, que pouvez-vous lui conseiller sur ce point?
Je viens de le dire. Bon, moi, les partenariats stratégiques, évidemment, avec les grandes légions de la mode, notamment. J'ai pensé également...
Et le micro, c'est mieux en face.
Oui, c'est beaucoup mieux d'ailleurs.
Réfléchis dans ces notes.
Oui, non, j'étais en train de penser à tout ça. Il
faut diversifier aussi les services. Vous avez
j'ai pensé effectivement aller aussi dans d'autres secteurs.
secteur, parce que je pense que la mode c'est bien. Vous avez déjà un très bel outil logistique, d'après ce que j'ai vu, et ça c'est fondamental, parce qu'il faut retravailler, il faut vraiment sélectionner, travailler, etc. Et puis il faut surtout s'assurer de la qualité pour la marque.
Exactement.
Donc ça c'est vraiment un cercle aussi, un cycle vertueux. Je crois aussi qu'on peut éventuellement se développer effectivement dans d'autres industries que la mode, par exemple le mobilier, le high-tech. Je pense qu'il y a des univers aussi qui peuvent être intéressants pour vous.
Tout à fait. Les marchés qu'on regarde aussi en ce moment connexes à la mode. On fait déjà de la maroquinerie de plus en plus. On a des marques comme Jérôme Dreyfus, Lancaster, qui sont des marques premium qui font de la maroquinerie. Ouais. On commence à travailler sur de la chaussure aussi de plus en plus.
Donc elles ont besoin de vous.
Et on a d'autres secteurs qui pourraient être adaptés. La joaillerie par exemple, l'horlogerie, qui sont des secteurs qui s'y prêtent bien.
Beverly.
Moi, je trouve ça passionnant. Bravo. Je trouve qu'il y a une vraie légitimité pour Faume et un besoin des marques, effectivement, d'opérer la seconde main. Ils ne sont pas professionnels. Ils doivent se diriger vers de la créativité, vers le développement de collections. Donc, c'est indispensable que chacun fasse son métier et pouvoir rendre ce service à des marques, c'est très pertinent. Ma seule question, elle est peut-être niveau consommateur. Je me pose cette question d'un client qui va vendre son top Sandro. Est-ce qu'il a vraiment envie de se racheter une chemise Sandro ou un jean Sandro?
Bah, le bon d'achat, moi aussi, j'y réfléchis, ouais.
C'est, je pense qu'il y a aussi quelque chose cross-marque. Est-ce que Faume, à un moment donné, pourrait faire en sorte que les marques que vous représentez pourraient interagir, ou on pourrait créer du bon d'achat qui soit cross-marque? Je pense que ça pourrait être intéressant, parce que j'ai eu cette idée à un moment donné du bon d'achat aussi pour Monogramme, mais la force de Monogramme, c'est de pas être uniquement sur une seule marque, et une personne qui vend un sac Chanel, parfois, va racheter un sac Saint-Laurent, ou va s'acheter plutôt,
parfois va pouvoir,
et c'est vraiment la force de l'entreprise, c'est de ne pas obliger le client à redépenser son argent chez soi. C'est la seule question, parce que si j'oblige mon client à acheter un sac Chanel ou une paire de souliers, alors qu'il a besoin de payer ses factures ou tout simplement de s'offrir un voyage, comment ils font?
Vous y avez réfléchi, j'imagine.
Exactement. Faut remettre dans le contexte, on est dans un monde du retail en ce moment qui est un peu compliqué. Le fait de proposer du bon d'achat amène beaucoup de bénéfices à la marque et aussi aux consommateurs. Nous, on va plutôt s'adresser aux gens qui sont fans de la marque.
Ouais.
Ok, ceux qui, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est eux souvent qui ont le plus beau vestiaire. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de consommer auprès d'une marque va pouvoir vendre et racheter au sein de la marque. Si quelqu'un veut maximiser son pouvoir d'achat, il va plutôt aller sur Vinted, Le Bon Coin, prendre le temps de faire cette vente. Alors que nous, on va plutôt s'adresser à ses clients justement un petit peu plus.
Oui, c'est plus captif.
Premium aussi.
Vous êtes plus captif, quoi.
Exactement. Je reprends un peu mon exemple de la voiture, mais c'est un petit peu la même approche. Voilà, vous savez que vous allez vous racheter quelque chose.
On s'identifie à la marque.
On s'identifie à la marque. On reste dans l'univers. C'est ce qu'on va proposer.
Et puis c'est clé en main pour le client. Vous faites tout. Il a rien à faire tout seul.
Pas de photo, pas de description, pas de négo.
Après, c'est des groupes. Donc, de toute façon, vous pouvez le faire dans tous les cas à travers intergroupe.
Exactement. C'est ce qu'on est en train de développer pour ça.
Vous avez entendu, c'est terminé. Ça passe trop vite. On va aller peut-être dîner ensemble.
Oui.
Comme ça, on va poursuivre.
Franchement,
allez tous en seconde main. Merci à tous d'être venus.
Le restaurant en seconde main, non.
C'est une bonne idée, tiens. On verra pour la faisabilité. C'est une bonne idée d'émission, en tout cas. Merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir sur le plateau de La France Bouge. Merci à Beverly Sonego, fondatrice CEO de Monogramme. Bravo pour la Monogramme Academy. Vous reviendrez nous en parler, évidemment, Beverly. Merci à Selim Zouaoui, cofondateur de Cycle Zéro. Faites-vous connaître, que les déchets des chantiers deviennent nos compagnons à la maison. C'est un bon slogan, d'ailleurs.
Merci
à Lucas Patrico, cofondateur de Faume. Cadeau. Et merci à Philippe Sauze, le coach de ce soir, directeur général, la tête dans les nuages. Dans un instant, c'est le journal de 22h présenté par Maëlle Hassani. Et tout de suite après, les années top 50. Bonsoir, Ambline.
Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir à tous. Le meilleur des années 80 et 90 pendant un quart d'heure chaque soir de la semaine. Après le journal de 22h, absolument le meilleur de 1985 ce soir. On écoutera Bibi tout doucement.
Elle a fait qu'une chanson.
C'est ce qu'on appelle un One Hit Wonder. Vous savez, quand il n'y a eu qu'un seul succès. Al Corley avec Square Room et Jean-Pierre Madère, Macumba.
Al Corley, Square Room, je crois que j'ai pas entendu ce titre depuis 42 ans.
Ah, ben ça, il est là ce soir.
Ah, bon, évidemment, 85. On sera à l'écoute. Excellente soirée à toutes et à tous sur Europe 1.
C'était La France Bouge avec l'IREF, la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. L'IREF, depuis plus de 40 ans, aux côtés de celles et ceux qui font le commerce organisé indépendant.